Shalom, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א',
Bonjour, nous allons lire des écrits de Rabash. Pourim est le commandement jusqu'à ce que l'homme ne sache plus. Vous pouvez poser vos questions sur k.tv/fre et les questions retenues seront posées durant la leçon. Le Créateur a créé le désir de recevoir. C'est ce dont il a besoin afin de donner, être bon à quelqu'un. À sa créature. C'est pourquoi cette créature doit avoir un désir de recevoir ce bien. Mais afin de recevoir ce bien, c'est pas simple. Parce que uniquement le Créateur est illimité, selon sa nature à donner. Donc, il n'y a pas de limite à donner. Pourquoi? Le Créateur est illimité parce qu'il est illimité, mais afin de donner, il a besoin de quelqu'un qui également soit illimité. Et ici, c'est le problème. Le Créateur a un problème. Parce qu'il veut tout donner. Mais la créature qui reçoit, il y a un problème dans le récepteur. Pourquoi? Est-ce que le Créateur a créé un désir de recevoir qui n'est pas illimité? Parce que la nature du désir de recevoir que le Créateur a créé, sa nature ne peut pas être illimité. Pourquoi? Parce qu'il reçoit. Et à partir du moment où il reçoit, c'est-à-dire se remplir, calmer ses désirs, pour qu'alors le désir disparaît. Tout comme nous sommes durant un repas, plus je mange et moins j'en veux. Mon récipient de réception disparaît. C'est pourquoi le Créateur qui veut remplir la créature. Le Créateur est illimité. Il ne peut pas remplir cette créature. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour que la créature ne soit pas illimité comme le Créateur et qu'il puisse donner? Vous comprenez la question? C'est une chose simple. Il y a un problème. C'est un problème du début de la création. C'est pourquoi, évidemment, la solution est déjà dans le Créateur, que la créature doit être comme lui. Et pour être illimité pour la créature, cela signifie qu'il doit être également un donneur, comme le Créateur. Parce qu'en donnant, il n'y a pas de limite dans celui qui donne. Et à nouveau, est-ce qu'il y aurait encore une limitation à recevoir ou pas? Non, parce que si on rend cette créature de telle façon qu'elle reçoive afin de donner en retour au Créateur, alors il n'y aurait plus de problème. Alors ils peuvent se donner l'un l'autre de façon illimitée. Parce que la créature qui recevra du Créateur recevra afin de donner. Et ensuite, afin de donner, développera le récipient pour être illimité. Et alors le Créateur peut lui donner d'une façon illimitée. Et la créature recevra dans ce récipient ce don en retour au Créateur et recevra un plaisir illimité. Et la solution est trouvée ici. Maintenant, il y a une question. Comment est-ce que la créature, comment est-ce que nous, en tant que créature, lorsqu'il est écrit que le Créateur consulte les anges, etc. Donc, comment pouvons-nous maintenant faire une telle créature qui soit capable de recevoir avec l'intention de donner? C'est-à-dire que son plaisir soit qu'elle lui retourne, passe en retour au créateur, qu'elle reçoive uniquement pour lui. Comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on atteint la mise en pratique? C'est pourquoi il y a besoin également pour briser la créature qu'elle fasse des efforts pour le moment pour se connecter elle-même, c'est-à-dire de réaliser des actions de don. Par ces actions de don, elle commence à se connecter en retour, et de tout cela, elle apprend comment chaque partie d'elle de vie, qui a été séparée peut donner aux autres parties. Et par les autres parties à qui il donne, elle comprend qu'il peut également cela faire donner contentement au créateur. Et alors, il apparaît que de l'amour des créatures, on a l'amour du créateur, et de cette façon, elle atteindra le don. C'est en fait la mise en pratique du but de la création. Cette forme est clarifiée entièrement dans Pourim. Parce qu'au début, nous devons augmenter les récipients de réception afin de recevoir. Ensuite, cela devient clair que dans ces récipients de réception, on ne peut pas atteindre le but de la création pour profiter de ce que le Créateur veut donner. Et si on n'apprécie pas le Créateur, ce qu'il donne, donc nous le mettons pas en pratique le but de la création, mais au contraire on méprise sa création, son but. C'est pourquoi ici cette force du don est révélée, la force de Mordechai, que en fait doit être celui qui mène tout ce processus, parce que cette créature doit réaliser une restriction, Timtsum, Massa, le Hor-Roser, et dire je suis uniquement pour recevoir afin de donner. Alors mes récipients seront illimités et réellement je peux recevoir toute cette abondance du Créateur afin de donner. Et c'est comme cela que la pensée de la création est réalisée et qu'on peut atteindre le Gmar Tikkun. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que je vois que maintenant on étudie les commandements jusqu'à ce qu'ils ne sachent pas. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on reçoive toute la lumière de Ein Sof du Créateur et que cela ne nous empêche pas, mais on peut empêcher cela d'une façon illimitée, mais pas qu'on reçoive la lumière d'Ein Sof de façon illimitée, mais la lumière d'Ein Sof signifie qu'on a des récipients illimités de la façon dont on reçoit. C'est pour ça qu'on appelle Ein Sof, sans limite. Et c'est pour cela qu'on dit que jusqu'à ce qu'il ne sache plus, parce qu'il n'y a pas de limite à recevoir la lumière de Rorma. S'il vous plaît. Et alors nous lisons de laisser le Pourim et le commandement jusqu'à ce qu'il ne sache plus. Nos sages ont dit, à Pourim, l'homme doit boire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus distinguer le Haman maudit du bienheureux Mordechai. Cependant, il est impossible d'arriver à l'état de ne pas pouvoir distinguer avant d'être dans un état de pouvoir le faire. Par la suite, il est possible de dire que nous devrions atteindre un degré plus élevé appelé ne pas pouvoir distinguer. Certes, il s'agit d'un degré plus élevé que de pouvoir distinguer, puisque nous avons reçu pour instruction de ne l'observer qu'à Pourim et non pas toute l'année. Comme nos sages l'ont dit, à Pourim, il faut, et non tout au long de l'année. Par conséquent, nous devrions comprendre le sens de pouvoir et de ne pas pouvoir. Nous devons également comprendre le commandement de la Torah de lire la portion Zachor. Rappelez-vous, le Magen Avraham écrivait je dois expliquer la coutume, car à cause de qui est-ce écrit dans la Torah qu'ils doivent lire expressément en ce Shabbat. Les sages ont déterminé que c'est en ce Shabbat, parce que beaucoup de gens viennent à la synagogue et qu'il est proche de Purim pour relier l'histoire d'Amalek à celle de Haman. Cela signifie que, souvenez-vous de ce que Amalek vous a fait, s'applique toujours. Cependant, ils ont décidé qu'il fallait le lire à Shabbat avant Purim pour attacher l'histoire d'Amalek à celle de Haman. En outre, qu'est-ce que l'attachement de « souvenez-vous » à Purim nous apprend dans le travail ? Afin de comprendre tout ce qui précède, nous devons d'abord comprendre le but de la création. De là, nous saurons ce qu'il y a entre le Haman maudit et le bienheureux Mordechai. Et qu'est-ce que ne pas distinguer entre le Haman maudit et le bienheureux Mordechai? On sait que le but de la création est de faire du bien à ses créations, afin que le bien que le Créateur donne soit complet, qu'à la réception, il ne ressente aucun malaise, puisqu'il y a une règle que chaque branche veut ressembler à sa racine, et la racine des créatures est son désir de donner aux créatures. Quand les créatures reçoivent de lui, elles éprouvent de la honte, car elles sont en opposition à la racine. Pour cette raison, il y a eu une correction appelée la restriction et la dissimulation sur le récipient de réception d'origine, c'est-à-dire comme il a été initialement créé, la réception dans le but de recevoir. Cela a été effectué par une correction, ce qui signifie que dans ce cli, il y a déjà un contrôle par l'établissement de la restriction, de sorte que l'abondance supérieure ne vient pas au cli appelé le désir de recevoir. Les kelim, les récipients de ce type, sont restés dans un état appelé un espace vide sans lumière, et elle est restée dans l'obscurité. C'est uniquement lorsqu'elles peuvent placer une intention de donner à ce cli qui est appelé recevoir, ce qui signifie que, bien qu'il ait un grand désir et une soif de recevoir l'abondance, il n'est pas encore certain que ce qu'il reçoit du Créateur soit dû à la mitzvah, une bonne action, parce que le Créateur veut donner, comme on l'a dit, qu'il veut faire du bien à ses créations, il est prêt à renoncer au délivre qu'il reçoit du Créateur. Au lieu de cela, il veut recevoir le délice et le plaisir uniquement à cause du but de la création. Maintenant, nous pouvons faire la différence entre Haman le maudit et le bienheureux Mordechai. La voie du juste Mordechai est d'agir uniquement pour donner au Créateur, ce qu'on appelle donner sans réserve. Ainsi, nous pouvons arriver plus tard au degré de plénitude, quand il atteint un degré où il peut déjà dire au Créateur, je veux que tu me donnes délices et plaisirs parce que je veux respecter ton désir. Donner aux créatures délices et plaisirs. Maintenant, je suis prêt à recevoir la joie et le plaisir parce que je sais que je ne veux pas cela à cause de l'égoïsme, mais pour donner. Maintenant, dans le dessein de donner, la réception du cadeau du roi est en plénitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte là, parce que la réception vient de son désir d'aider le Créateur, dans le but de révéler le but de la création, afin que chacun sache que c'est de faire du bien à ses créations. Puisque nos sages ont dit, s'il accomplit une seule mitzvah, heureux est-il, parce qu'il s'est condamné lui-même et le monde entier du côté du mérite. Par conséquent, puisqu'il est dans un état où il ne se soucie pas de l'amour de soi, mais plutôt de l'amour des autres, il s'ensuit qu'en voulant recevoir des délices et plaisirs du Créateur, il veut maintenir l'amour d'autrui entre l'homme et Dieu et entre l'homme et l'homme. C'est comme il est écrit dans le Zohar, et dire à Sion, tu es mon peuple, ne prononcez pas, vous êtes mon peuple, Ami, avec un patar dans la haïn, mais vous êtes avec moi, Imi, avec un irik dans l'haïn, ce qui signifie partenariat avec moi. Heureux ceux qui pratiquent la Torah. Bien qu'il y parle d'entre l'homme et le Créateur, mais la question de l'interprétation d'un partenaire peut aussi être appliquée entre l'homme et l'homme, car cela implique que plus tard, le monde entier recevra le côté du mérite. Il s'ensuit qu'il a fait le bien entre l'homme et l'homme en amenant le monde entier à recevoir la joie et le plaisir qui existent dans le but de la création. Il s'ensuit qu'il est devenu un partenaire du Créateur, en ce sens qu'à travers lui viendra l'aide par laquelle chacun atteindra le but de la création. C'est ainsi qu'il est devenu un partenaire du Créateur. Comme il est écrit, j'ai commencé la création en voulant donner délices et plaisirs, et Israël s'efforce de réaliser ce but en créant des kélim qui soient autres à recevoir l'abondance supérieure sans le défaut, appelé pain de la honte.
Au contraire,
même lorsqu'ils recevront la joie et le plaisir, ils ne perdront pas la dvekut, l'adhésion appelée l'équivalence de forme, car cela est la raison du timsum, la restriction. Ceci est considéré comme la connaissance du chemin de Mordechai, qui est un chemin qui apporte la bénédiction au monde entier. Comme on l'a dit plus haut, s'il le mérite, il se condamne lui-même et le monde entier au côté du mérite. Ceci est appelé le bienheureux Mordechai. Inversement, la voie de Haman est de ne pas regarder la correction du Timsum qui a été placé sur les récipients de réception. Mais plutôt, il dit, puisque le Créateur a créé le monde afin de faire du bien à sa création, et que nous voyons que dans notre nature, il y a un désir de recevoir délices et plaisirs, alors pourquoi le Créateur a-t-il créé ce désir, sinon pour l'utiliser? A-t-il au contraire créé en nous le désir et l'envie de recevoir du plaisir? Et a-t-il dit de ne pas l'utiliser, mais d'en être tourmenté? Il s'avère donc que cela va dans le sens contraire. On dit qu'il a créé le monde pour faire du bien à sa création. Selon le juste Mordechai qui dit de ne pas utiliser ses désirs, cela signifie qu'il a créé le monde pour faire du mal à sa création. Ainsi, il voudrait probablement mieux ne pas créer le désir de recevoir délices et plaisirs, puis créer un désir et une envie de recevoir le plaisir, puis dire de ne pas l'utiliser, mais de se tourmenter et de rester dépourvu de plaisir. Par conséquent, comment est-il possible d'être d'accord avec la façon de voir de Mordechai et dire qu'il est interdit d'utiliser les kélim qui veulent profiter? Après tout, ceci est le vrai kli que le Créateur a créé. Même Mordechai admet que le Créateur a créé le désir de recevoir délices et plaisirs dans le monde. Par conséquent, Haman soutient que le chemin de Mordechai n'est pas le chemin de la vérité. Il a surtout de nombreux partisans de son côté. Le monde entier dit que la vraie voie dans le monde est celle de Haman. C'est ainsi qu'il est écrit, tous les serviteurs du roi qui sont à la porte du roi s'agenouillent et s'inclinent devant Haman, car le roi l'a ordonné. Ceci signifie qu'Haman leur a fait comprendre que le roi l'avait ordonné. C'est-à-dire que Haman affirmait que puisque le roi, c'est-à-dire le Créateur, a créé le désir de recevoir, il doit vouloir que nous recevions et apprécions. Et tous les serviteurs du roi se sont agenouillés, c'est-à-dire qu'ils se sont rangés à l'avis de Haman, parce qu'il a fait valoir que ce désir de recevoir, que Mordechai dit de ne pas utiliser, est incorrect parce que le Créateur ne l'a pas créé en vain, mais plutôt pour être utilisé. Et Mordechai dit non. Comme il est écrit, et Mordechai ne s'agenouilla pas et ne s'inclina pas. C'est le sens de ce qui est écrit, et les serviteurs du roi qui sont à la porte du roi ont dit à Mordechai, pourquoi défiez-vous le commandement du roi? Bala Sulam a dit à ce sujet que cela signifie que les serviteurs du roi ont dit à Mordechai, Haman nous dit que sa décision de marcher sur son chemin et non sur le chemin de Mordechai vient du fait que c'est le chemin de la vérité. Ceci est le sens de leur question à Mordechai. Pourquoi défies-tu le commandement du roi, c'est-à-dire le Créateur? Car Haman dit que le roi lui avait ainsi ordonné, c'est-à-dire le roi des rois. Cela signifie que, puisque le désir de recevoir et l'aspiration de l'égoïsme est le roi de tous les rois, il a créé cette force chez les créatures. C'est pourquoi le monde entier soutient la vision et l'esprit de Haman. De même, le point de vue de Haman a été écrit dans la Torah, comme l'ont dit nos sages, Haman, mana de la Torah. D'où vient-il? As-tu mangé de l'arbre duquel je t'ai ordonné de ne pas manger? Manger de l'arbre de la connaissance est expliqué dans l'introduction au livre Panim Meirot. Il y explique qu'Adam Arishon était complètement séparé de la Sitrara. Et il a déjà été expliqué qu'Adam Arishon n'avait pas la gadlout de la réception dans sa structure, quel que soit, qui s'étend de l'espace vacant. Au contraire, il était entièrement ici du système de la Kdusha, la sainteté qui concerne le don. Il est écrit dans le Zohar que Adam Arishon n'avait rien de ce monde. C'est pourquoi l'arbre de la connaissance lui était interdit, comme sa racine et tout le système de la Kdusha, qui sont séparés de la Sitrara en raison de leur disparité de forme. Il s'ensuit que Haman veut dire utiliser le grand désir de recevoir afin de recevoir, car c'était tout le conseil du serpent. Il y est également écrit qu'il a dit au serpent, Dieu avait mangé de cet arbre et créé le monde. C'est-à-dire, il a regardé ceci sous la forme de la fin de l'acte et dans la pensée préliminaire. Et c'est pourquoi il a créé le monde. C'est le sens de l'argument du serpent selon lequel manger de l'arbre de la connaissance est le commandement de Dieu. Alors pourquoi le Créateur a-t-il ordonné à Adam Arishon de ne pas en manger? À cela, le serpent a donné une bonne réponse à Adam et Ève. Essentiellement, il veut dire d'observer le commandement du Créateur en leur conseillant de manger de l'arbre de la connaissance. C'est aussi la question ici, dans le livre d'Esther, où il est écrit et tous les serviteurs du roi qui sont à la porte du roi s'agenouillent et s'inclinent devant Haman. Il en est ainsi parce que le roi leur avait ordonné. Par ceci, nous comprendrons que Haman le maudit signifie que le chemin de Haman est un chemin maudit, c'est-à-dire un chemin de malédiction. Voici ce qui est écrit, et l'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu plus que toutes les bêtes. » Il dit à la femme, « Je multiplierai ta douleur. » Il dit à l'homme, « Parce que tu as mangé de l'arbre, la terre est maudite à cause de toi. » D'après ce qui précède, nous comprenons que l'homme doit atteindre le degré de savoir. C'est-à-dire qu'il y a la grande différence entre Haman le maudit et Mordechai le bienheureux. C'est la différence entre la vie et la mort, puisque le chemin de Mordechai apporte la vie, et l'homme est récompensé en adhérant à la vie des vies. Mais le chemin d'Haman, il le sait déjà, apporte la malédiction au monde, car toute la mortalité dans le monde est causée par « Avez-vous mangé de l'arbre duquel je vous ai ordonné de ne pas manger ?» C'est à propos de ceci que les Écrits disent « maudit ». Cette question s'applique jusqu'à la fin de la correction, que l'homme doit faire attention à ne pas tomber dans la voie de Haman. À la fin de la correction, le désir de recevoir sera corrigé pour pouvoir donner, puis la mort sera engloutie à jamais. C'est comme le dit le Zohar, à la fin de la correction, Sam sera un ange saint. Maintenant, nous pouvons comprendre l'importance d'effacer Amalek en lisant « Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait. » Spécifiquement, quand nous savons tout ce qu'Amalek nous a fait, c'est-à-dire la mort qu'il a provoquée dans le monde par sa domination. Ne pas marcher sur le chemin du don sans réserve et adhérer à la vie des vies, alors nous essayons de l'effacer de la surface de la terre. Sinon, avant qu'une personne n'atteigne le degré de connaissance de ce qu'Aman et Amalek nous ont fait, une personne n'a pas envie de le supprimer. Il s'ensuit que, précisément, quand on a atteint le degré de connaissance de Haman le maudit de la part du bienheureux Mordechai, il est possible d'effacer Amalek. Pour cette raison, avant Pourim, qui est le moment où nous devrions atteindre le degré jusqu'à ce qu'il ne sache pas, nous devons atteindre le degré de connaissance. Et ce n'est qu'alors que nous pouvons effacer Amalek. En d'autres termes, lorsqu'une personne veut observer effacer la mémoire d'Amalek, c'est un signe qu'elle a déjà été récompensée par la connaissance. Sinon, une personne ne peut effacer Amalek. Mais plutôt, elle est toujours immergée dans la klipa, l'écorce d'Amalek, et ne veut pas conserver, effacer le souvenir d'Amalek. Maintenant, nous allons expliquer ce que nos sages ont dit. À Paris, il faut boire jusqu'à ne plus pouvoir distinguer le Haman le maudit du bienheureux Mordechai. Nous avons demandé, qu'est-ce que la gadlout, la grandeur, d'agir de la sorte uniquement à Pourim, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne puisse pas. Le Saint Ari dit, c'est pourquoi, à l'avenir, tous les jours spéciaux seront supprimés, sauf pour le livre d'Esther. La raison en est qu'il n'y a jamais eu un si grand miracle, pas même au sabbat, et pas pendant les bons jours, quand il y a eu une telle illumination, même après le départ des morines de la femelle, sauf pendant les jours de Pourim. À cet égard, Pourim a un grand avantage sur les autres jours, même sur les Shabbats et les bons jours. Dans le commentaire Orpnimi, il y interprète qu'avant la fin de la correction, il est impossible de corriger toutes les étincelles et les kélim qui se sont brisés, mais seulement les 288 étincelles des 320 peuvent être triées et amenées à la Kdusha. Cependant, cela aussi sera trié progressivement, laissant 32 étincelles en dehors de toutes les étincelles qui ne doivent pas être triées. C'est ce qu'on appelle le cœur de pierre. Ce n'est qu'en triant les 288 étincelles, lorsqu'elles seront complètement triées, que le cœur de pierre sera également rangé par lui-même. Ainsi que dans « Et je retirerai le cœur de pierre de votre chair, et je vous donnerai un cœur de chair. » À ce moment-là, la mort sera engloutie pour toujours. Tout le monde sera corrigé en bien et les ténèbres brilleront comme la lumière. Puisque ces lumières de Pourim ressemblent à la fin de la correction, car elles ne s'illuminent que grâce au miracle, pour cette raison, tous les jours spéciaux sont annulés en dehors de Pourim, car il appartient à la fin de la correction. Ensuite, quand tout le mal sera corrigé, il n'y aura plus de différence entre Aman le maudit et le bienheureux Mordechai. Et Aman, lui aussi, sera corrigé en bien. Des questions ?
Non, Gershon.
Oui, Gershon. Il écrit ici que... ceux qui étaient à la porte du roi se sont abaissés, prosternés, car le roi l'avait demandé. Qu'est-ce que tu veux dire? La personne doit utiliser tous ses récipients. Alors comment est-ce que tu peux avancer d'un récipient de réception? Donc l'homme doit ressentir qu'il est complètement sous le contrôle de son désir de recevoir, il ne peut rien faire contre ça. Attends. Afin de recevoir, ça c'est quelque chose d'autre. Avant, tu as dit juste le désir de recevoir. Ça c'est autre chose. Mais qu'est-ce que tu demandes? D'abord, je voudrais que tu expliques pour que tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi se sont prosternés parce que c'était le devant Aman, parce que c'était le commandement. Le roi vient à Aman, Aman est activé au nom du roi et personne de ici ne peut faire quoi que ce soit en dehors du roi. Et il est le roi et il active Aman. Et tous les serviteurs, tous ceux qui sont sous le roi, doivent supporter Aman et l'aider et le respecter. Et de voir que Aman est celui qui contrôle, évidemment au nom du roi, mais le roi lui donne la force de contrôler. Mais qu'est-ce qu'Aman? Le désir de recevoir. Qui a le contrôle de toute la création, de toute la malroute. Donc, ce que je voulais demander, c'est une ligne plus tard, il dit qu'avec cela, on peut comprendre ce qu'est Aman le maudit, ce qui signifie que la voie de Aman est un chemin maudit. Comment cela peut-il arriver? Uniquement, le Créateur nous oblige à ressentir qu'il y a un chemin maudit. Le mot maudit, qu'est-ce que ça veut dire? Le Créateur veut que nous comprenions que notre désir de recevoir, dans lesquels on est né et qui nous contrôle et que nous sommes tous d'accord avec cela de cœur et d'esprit et que nous n'avons rien en dehors de ce désir de recevoir, son contrôle en nous est plein, complet, total. Donc le Créateur veut que d'abord que nous ressentions que le contrôle du désir de recevoir est complet et parfait. Comment pouvons-nous sentir cela? Parce que si nous voulons sortir de cela, et d'une certaine façon, on voit combien il nous maintient en cela. Et pour le moment, c'est comme avec l'Égypte. D'abord, tout est bien, on profite du désir de recevoir, on mange, on boit, on profite de la vie encore et plus. Et ensuite, il est révélé que cela est limité, que cela ne nous permet pas de profiter, qu'il y a un autre but au-dessus de cela qui peut être... qu'il ne peut pas être mis en œuvre à cet endroit. Et alors, il y a ces temps de famine. Ici également, nous devons découvrir que ce désir de recevoir nous amène à la mort. Dans une telle mesure, on voit que cela amène, nous amène au roi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Lorsqu'Aman tombe sur le lit du roi, lorsque la reine est encore dans le lit, tu te rappelles de ça? La façon dont c'est écrit là? C'est-à-dire que le désir de recevoir, afin de recevoir, Aman est afin de recevoir. Il... Il est disqualifié de travailler avec lui. C'est ça qu'on doit atteindre. La créature doit, qui est à ce point-là, est ce qu'on appelle la reconnaissance du mal. Reconnaître que je ne peux vivre, je ne peux exister dans le désir de recevoir comme il est en moi. Parce qu'il me dévore, il ne me laisse pas avancer. Nous pourrions penser que nous sommes développés dans le désir de recevoir dans le monde et que le Créateur exprès a fait toutes sortes d'exercices pour nous et ne nous permet pas de nous développer correctement. Il nous envoie toutes sortes de crises, de guerres, il fait ça d'en haut et... plutôt qu'un beau chemin où on peut se développer, il a mis certains obstacles sur le chemin. Et c'est pas vrai, c'est le désir de recevoir qui est fait, qui est créé afin de recevoir et profiter de lui-même, et qu'il a atteint en fait une crise. Il atteint une telle malfonction, dysfonctionnement, un tel dysfonctionnement. Où est Avigdor ici? Ah, il est là. Il peut te le dire. Il y a beaucoup de matériel de comment nous avançons égoïstement sur notre chemin. Donc la forme égoïste elle-même crée les défauts sur le chemin, les fautes sur le chemin. L'avancement normal, selon le capitalisme normal, lui-même est construit d'une telle façon où peu importe comment tu le prends, tu entres dans une crise, tu entres dans un état où il n'y a rien que tu puisses faire. Et d'où est-ce que ça vient? C'est-à-dire que ce n'est pas un problème qui vient artificiellement d'en haut du Créateur, et qu'il a fait cela exprès, mais dans le désir de recevoir, il y a une telle limite, parce que à partir du moment où il reçoit ce qu'il mérite, ce qu'il veut, il arrête de le vouloir, et il n'y a pas de manque, annule le manque en recevant. Et il apparaît que la réception elle-même amène à la mort. À la mort. Pourquoi est-ce qu'il écrit que l'homme ouvre sa bouche et prend la dernière goutte de poison qu'on lui donne et qu'il meurt? Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Le désir de recevoir n'est pas afin de recevoir, de profiter. C'est vrai qu'il peut exister de cette façon dans le minéral végétal et animal, au petit degré. Et alors là, la personne vit simplement, elle ne pose pas de questions, elle ne se développe pas. sont les yeux de recevoir. Comme le minéral végétal et animal, c'est pourquoi le désir de recevoir se développe. Tant qu'il ne se développe pas, tout est bien. Mais une fois qu'on atteint un état appelé humain, la dame, pas des humains qui vivent comme les animaux, mais lorsqu'on veut développer notre désir de recevoir, ça y est, on rentre dans les problèmes. Très rapidement, tout se termine. Quand est-ce que ce capitalisme a commencé à élever la compétition? Depuis combien de temps ça existe? De quoi? Quelques dizaines d'années? Et maintenant, ça se termine. Parce que le désir de recevoir lui-même ne peut pas travailler comme ça, fonctionner comme ça. Le problème est qu'il y a une contradiction, une aversion entre le désir et le remplissage. Ça, c'est un problème. Et ensuite, le remplissage éteint le désir, il l'annule. Et qu'est-ce que je retire de cela? Je veux manger. Et plus je mange, et que je profite de ce que je reçois, et que je me remplis de la nourriture, par cela, mon désir grandit encore plus, et encore, et alors je me remplis encore plus, et encore plus, et comme cela, de façon infinie, et cela n'arrive pas. Cela arrive à faire grandir au début, le roi a fait avancer Aman, et ensuite plus, pourquoi? Parce que le désir de recevoir blague de ce qu'il reçoit. Pourquoi? Parce qu'il a déjà reçu. C'est pourquoi le roi a un problème. C'est ce que j'ai dit avant l'article, c'est pourquoi le roi a un problème. Comment il peut créer une créature illimitée qui reçoive toute l'abondance et que le créateur veut donner de façon illimitée? Comment est-ce que la créature peut recevoir quelque chose sans limite? Donc il n'y a pas aucun choix, c'est une solution simple, c'est uniquement s'il reçoit en rendant en retour au créateur uniquement de cette façon. Donc tout le plaisir passera par la créature et reviendra au créateur. Que le créateur sera le récepteur du plaisir. Parce que comme cela, on n'annulera pas son désir de recevoir. Et de cette façon, la création peut prendre place. C'est pourquoi il est clair, pour commencer, que l'acte final se trouve dans la pensée préliminaire, que la créature peut exister après s'être réalisée elle-même. Mais c'est le processus par lequel doit passer la créature, afin de connaître la création, parce que le créateur ajoute une fois, il a créé au début et à la fin de la création, en une seule action. Où est-ce qu'il est écrit dans Istaklut Nimit par un de Tess que en une action le créateur a fait etc etc, et le créateur s'est révélé dans tout ce processus jusqu'à la fin du chemin. Comment est-ce qu'il est écrit là? Avec une seule pensée, toute la réalité était émanée, créée, et c'est ce qui agit, c'est l'essence de l'opération, c'est l'espoir pour la récompense, et c'est l'essence des efforts. Que la créature doit révéler ce qui a été fait. Ça, c'est notre chemin. C'est pourquoi il est écrit, et tu as goûté de quelque chose d'ancien. Tout est là. Nous sommes juste dans un processus qu'il faut apprendre. Moscou.
Раф, мы просим возможность задать два вопроса подряд.
Раф, est-ce qu'on peut poser deux questions? Oui. Donc la première, de Sergei. Est-ce qu'il y a une différence entre l'état d'être le serviteur du Créateur et le partenaire? Oui, mais c'est tout à fait complexe. Quand est-ce qu'on a un serviteur, un partenaire, quand est-ce qu'on utilise les deux? Parce qu'en fait, en adhésion, il n'y a pas de serviteur ou de partenaire. là, il y a déjà une atteinte, que c'est difficile de parler d'une créature parce qu'il a atteint le Créateur dans différents détails et aspects. Il y a d'autres questions? D'autres questions? Il y a deux questions, non?
Не радость или любая другая эмоция, а именно стыд. Что такое стыд? Не отнимает ли это у меня свободу?
Lorsque on reçoit la honte nous est envoyée, quelle est cette honte? Et que cela enlève la liberté de choix de la personne?
אנחנו נמצאים בכל מיני מצבים.
Nous passons par toutes sortes d'états qui ne sont pas clairs. C'est pourquoi nous avons un tel ressenti, le ressenti de la honte ne devrait pas exister parce que je reçois. Mais plutôt le sentiment de la honte. En fait, ça dépend de quel niveau on parle. C'est un problème. Nous sommes dans une transition, donc c'est difficile de définir cela. La honte n'est pas due au récipient de réception. Je n'ai rien d'être honteux dans la réception. Je suis un petit enfant, je n'ai pas honte de qui je suis, comment je suis, parce que tout a été créé, c'est comme cela que je reçois. Mais je n'ai pas à en être heureux de comment je suis créé, comment j'ai été éduqué, de quoi j'ai l'air. Il ne faut pas être honteux de cela. De quoi on doit être honteux? On est honteux dû au manque de connexion que je ne peux y arriver. La correction, c'est que j'empêche le progrès des autres. Et que je pourrais le faire, mais que je ne le fais pas. Là est la honte, la question de la honte. La honte de ce monde, la personne est honteuse égoïstiquement parce qu'elle est heurtée parfois, égoïstiquement. Si ce n'est pas pour son égo, elle ne se soucierait de rien, de qui que ce soit, et ne prendrait personne en considération. Quelqu'un d'autre? C'est tout? Bien. S'il vous plaît, rapidement.
Rab, nella lettura sono stati domanda dal gruppo italiano.
Nella lettura sono stati talchi c'è il tabe malach creato a Mahamar.
Chiedono che cosa sono questi numeri
245.
A cosa serve a noi sapere questi numeri che escono fuori?
Sholim ma mashmaut shel hamisparim haele rapach ve
quel est le sens de ces nombres par char 288 320 on peut parler en termes de science, nombre, vecteurs, etc. Mais c'est la meilleure manière d'expliquer cela. On peut également parler dans la langue des émotions, ce qui n'est pas si clair. Il y a toutes sortes de... C'est un peu vague. En fait, on a une manière claire de pouvoir se mesurer, voir où on en est. Nous devons avoir cela. Finalement, nous sommes dans un système. Il y a une connexion entre chacun lorsque toutes les parties du système sont en interconnexion et qui existent selon des lois, selon des forces, selon des définitions. Toute la création est une loi. Et c'est pourquoi nous avons besoin de ces nombres, ces angles, etc. Dans ce jeu de Kabbale, il y a beaucoup de formules. Si tu prends l'étude des 10 séphirot, tu verras combien elles expriment là qu'il n'y a pas d'émotion, là où on parle d'action. Ceci monte, ceci descend, cela prend la place de celui-là, de cette façon, tout est action. Tout comme lorsque tu entres dans une autre science et que tu vois ce qui est dit là. Il y a des formules. Quelles sont ces formules, des relations entre les différentes parties? Chaque sagesse dans le monde parle des relations entre les différentes parties. Les parties de la réalité. On est dans une réalité. Elle existe dans différents niveaux biologiques, physiques, enfin, peu importe le niveau. Et à chaque niveau, cela parle de la connexion entre les parties. Et la connexion entre les parties et la science, la physique, la chimie, la botanique, enfin, peu importe quoi. C'est tout ce dont est faite chaque science, ce dont parle la Kabbale. Elle ne parle pas de ce niveau, mais elle parle du niveau fondamental du désir qui existe dans toutes les parties de relations sous différentes formes, à différents niveaux, dans différentes grandeurs. Et par conséquent, cela est appelé la sagesse fondamentale. Et elle fonctionne comme n'importe quelle autre sagesse. Cela signifie qu'elle rencontre toutes ces formules. Comment d'autres pouvons-nous faire des recherches sur la création? Comment nous mesurer lui et nous par rapport à lui, nous voyons toutes ces choses d'une façon sérieuse, c'est-à-dire scientifique. Et en dehors de la langue de la Kabbale, tous les autres langages sont, disons, imprécis. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Tu vois certains compositeurs qui créent certaines compositions, disons. Tu peux écrire cela, sur cela des milliers de pages, différents essais, parce que chacun ressent cela en lui-même. Mais il faut qu'il y ait, d'une certaine façon, d'écrire que cela exprime la vraie connexion entre les différentes parties. Donc, c'est ce que le compositeur exprime dans les notes de la sagesse de la Kabbale. C'est dit cela dans ses propres phrases, en guématrie, numérologie, etc. Mais nous devons avoir, lorsque je monte l'échelle des degrés, je peux compter où je suis. Combien j'ai corrigé, combien j'ai pas encore corrigé. Ils disent que finalement, nous avons 320 actions dans nos désirs. Ce que nous devons corriger en termes de parties de lumière qui sont en nous, il y a 288 étincelles. 288 que nous corrigeons et 32 que nous corrigeons pas par nous-mêmes. Il faut connaître toutes ces choses, où cela se trouve. Il y a beaucoup de ces créations, finalement, c'est très complexe. Finalement, tu peux dire que c'est une formule simple. On a une simple formule ici, c'est un désir de donner au Créateur, le désir de recevoir de la créature, et entre eux, il y a un signe d'égalité, un égal, et il y a un coefficient là, qui se doit être un coefficient avec cette égalité. Ce coefficient doit ramener l'égalité entre le désir de donner et le désir de recevoir. Ce coefficient est hors rosaire. Donc, Timsum, Ratmasar, hors rosaire. Restriction, écran et lumière réfléchie. Ça, c'est le coefficient. Il faut garder cette formule tout le temps. Donc, je dois savoir le désir de donner, le désir de savoir. Quel est mon coefficient? Constamment, je veux savoir quel est ce désir de donner. Le Créateur, combien je suis attiré par lui? Combien j'avance vers lui? Combien je m'égalise avec lui? Donc, constamment, je vérifie. Mon désir de recevoir également ne sait pas encore vraiment cela selon les données. Je commence à voir quelle est ma situation, quel est mon endroit, ma place dans la situation. C'est comme ça que je recherche sur la création. Et lorsque je recherche toute la création, je ne me relie pas correctement au Créateur. Ma relation à lui doit atteindre le degré de l'amour. Maintenant, par rapport à l'avancement vers le Créateur, je ne peux avancer vers le Créateur, je dois me relier à lui par rapport à ce coefficient, c'est-à-dire avec l'intention de donner. Si je n'avais pas l'intention de donner, je ne pourrais avoir d'interaction, aucune interconnexion avec lui. Je ne pourrais pas. D'accord ? Donc, comment j'atteins le Créateur, l'interaction avec le Créateur, c'est pourquoi on m'a donné un cli brisé. Tout le cli brisé intérieur, tout ce monde, tous les amis et tout ce que la sagesse de la Kabbale parle, parle de comment j'acquiers sur mon désir de recevoir une intention de donner avec l'aide du groupe et alors avec l'intention de donner. Je peux me tourner vers le Créateur. Sans le groupe, je ne pourrais pas me tourner vers lui. Nous n'avons aucune connexion à lui. Et c'est pourquoi nous disons que le Créateur est révélé dans la créature. Pourquoi à l'intérieur de la créature, pour être développé dans le groupe, dans la mesure où je me relié au groupe dans le don, à la fin, ici, graduellement, c'est pas simple, mais je m'amène à un état où, en voyant le groupe de cette façon, dans le don, j'acquiers la qualité du don, j'acquiers la capacité à être le donneur un petit peu au-dessus de mon désir de recevoir. Et alors, je commence à être en équivalence avec le Créateur. Selon mon équivalence avec le Créateur, je le découvre. Nous sommes déjà dans une certaine adhésion, au moins lorsque je suis au bar, embryon. Mais qu'est-ce que l'oubar ? Je veux restreindre tout ce que j'ai en moi, tout du long, afin d'être uniquement similaire à lui, d'une certaine façon. Similaire comment ? Lui, il donne. Moi, je ne peux donner, mais je ne peux pas recevoir. Si je me restreins à ne pas recevoir, sans aucune circonstance, alors je deviens un oubar. Nous en avons parlé. Nous avons lu à ce sujet. Qu'est-ce que l'oubar ? C'est la plus grande restriction, la plus grande aussi petite que possible. C'est tout. Mais comment est-ce que je peux faire cela ? Uniquement dans le monde. Et alors, nous devons passer par tous ces états. Pour nous, c'est le plus difficile parce que nous sommes les premiers qui le faisons. Et qui le faisons dans un grand groupe, en essayant d'atteindre cette simulation, similitude avec le Créateur. C'est pourquoi ce n'est pas simple, mais c'est la vérité. Oui. Merci Rav. Plus de questions ?
Non, c'est ça. Gotza.
Ok. Le groupe, oui.
Il écrit
que le degré de Charnatno, c'est plus haut. La connaissance, et alors quelle est la différence entre ne pas connaître et la foi ? Jusqu'à ce qu'on ne sache plus, signifie que toute la lumière de Rorma est reçue, apparemment sans aucune limite, avec toute la lumière de Rassanim, jusqu'à ce qu'on ne sache plus. Cela signifie que on n'a pas de limite sur la réception de la lumière de Rorma parce que tu as corrigé ton cli pour que une lumière de Rassanim illimitée est exactement qui est cette fête, de quoi parle cette fête, le Martikut. Pour dire les choses ainsi, que jusqu'à ce qu'on ne sache plus, cela signifie que tu t'es corrigé sur les 288 parties, mais tu en as reçu 320. parce que les 32 ont rejoint cette correction des 288 et cela est appelé jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus. Et cela est au-dessus des limites de la correction. Poursuivre lorsque nous sommes dans cet état de ne pas savoir et qu'on ne voit pas la différence entre le Aman le Maudit et Mordechai le Bienheureux. Est-ce que on parle ici des trois lignes? Je ne sais pas. On parle ici de la correction finale. Je ne sais pas ce qui se passe dans cet état. Les trois lignes, c'est vrai, mais cela parle du processus de la correction, droite, gauche, le milieu, égalise les deux, la Gaza n'a qu'une passe. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, je n'ai pas lu de telles choses et je n'ai pas atteint de moi-même. On l'atteindra ensemble. Moscou.
Rav Statia Baal Sulam написал, что разница между
Аманом и Мордехай,
что это
значит? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est ressenti d'une telle façon? La différence entre Aman et Mordechai, c'est comme la différence entre la vie et la mort, parce que si je suis en désir de recevoir, mon désir de recevoir au départ est à l'opposé du Créateur, donc plus je reçois, plus en plus je me mets à la mort. Et dans ce désir de recevoir, alors est éteint. Et parce qu'il reçoit. Bah, en recevant, le désir qu'on a de recevoir se manque et neutralise. Et alors, qu'est-ce que j'atteins? Là, on peut voir ça dans ce monde, que nous arrivons au désespoir, à la dépression, le fait qu'on est dépourvu, les jeunes générations ne veulent plus rien, etc., etc. Donc, le serpent se mange la queue. C'est pourquoi cela est appelé maudit. Ce n'est pas maudit parce que cela cause du tort aux autres, mais lorsqu'on se développe, on veut faire du bien aux autres. Faire du bien aux autres, c'est également du bien pour moi. Je pense que le monde global, qu'on réussira tous, mais non, le désir de recevoir dans sa base est incapable de cela. Donc, toutes ces idéologies de capitalisme, de toutes ces choses, la société compétitive qui va se développer constamment, elles ne comprennent pas la nature, qu'il est impossible d'arriver avec cela à quelque chose. Alors ils commencent à établir dans la société moderne toutes sortes de systèmes artificiels. Pas naturel. L'argent n'est pas naturel, le travail n'est pas naturel maintenant, et tout ce que nous faisons n'est pas naturel. 90% de ce que nous faisons, fabriquons, nous faisons des choses qui sont inutiles. Nous détruisons la nature. Et pourquoi est-ce qu'on travaille si on ne peut pas travailler? Ces sociétés primitives ne travaillaient pas. Ils ne travaillaient pas si dur. Ils travaillaient. Ils étaient assis. Ils s'organisaient des choses simples. Ils s'asseyaient autour du feu. Ils s'engageaient avec leurs enfants. Ils ne travaillaient pas comme maintenant. De nos jours, les gens travaillent toute la journée. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous donner du travail? Notre culture a vraiment tort. Et c'est pourquoi le désir de recevoir est maudit. Il se mange. On n'a pas le choix, mais on est en train de se manger nous-mêmes afin de voir que Aman est réellement maudit. Ça, c'est à côté, de l'autre côté. Cela ne s'ouvre pas. Il est maudit de l'autre côté également. Il y a un désir, un grand désir de recevoir, mais il ne s'ouvre pas pour nous. Il s'éteint une fois que j'étais jeune, tout le monde rêvait d'aller dans l'espace, sur la Lune, sur Mars, dans les études, voyager dans l'espace. passe, et toutes ces chaussures, etc. Et maintenant, où est-ce qu'on en est? Il n'y a plus d'intérêt. Mais moi, dans un coin, laisse-moi, donne-moi mon téléphone, pizza, et puis c'est tout, j'ai besoin de rien d'autre. Donc on peut voir que le désir de recevoir ne peut plus se développer, et également dans tout ce qu'il est maintenant, et ne nous permet pas de profiter, parce qu'à partir du moment où il reçoit, la réception refroidit le désir. On peut recevoir une fois, deux fois, trois fois. C'est pourquoi cela est maudit. Et pas la façon dont les gens pensent, de façon égoïste, que c'est pas bien, que ce ne s'agit pas d'être bien ou pas, mais par nature, cela est limité, que ce soit en termes de croissance et également en termes de ne rien vouloir. Et ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, nous disons que Aman Agagi, doit atteindre Gag, le toit, la fin, être illimité comme le créateur. C'est Aman, où est-ce que le désir de recevoir atteint cette forme lorsqu'il rejoint l'intention de afin de donner et qu'elle avance avec la force du don, et alors elle devient comme le créateur, illimité. Et alors, elle peut réellement atteindre le toit de la création. Mordechai est l'opposé. Il n'est pas maudit, mais plutôt, comment est-ce qu'on l'appelle? Le béni, le bienheureux. Pourquoi bienheureux, béni? Parce que le Créateur est appelé le béni, le bienheureux. C'est un des noms du Créateur. Pourquoi? Parce qu'il atteint l'équivalence de forme. Il donne non la satisfaction dans le désir de recevoir, mais plutôt il amène la créature à un degré où la créature profite l'état du Créateur, pas du remplissage, l'état du Créateur. C'est ce que la créature profite, c'est de cela qu'elle profite. Il y a des mots. On ne sait pas de quoi ça parle, mais c'est ce qu'on atteint par la écoute adhésion.
Non.
C'est bien. Une question de Toluca, Mexique. La pensée de la création qu'on donne au Créateur ou fait être des partenaires? La même chose. Tout comme, il faut comprendre que tout ce que nous sommes, c'est des créatures. Nous devons atteindre l'équivalence avec le Créateur, nous devons lui donner tout comme il nous donne. Par cela, nous atteignons un degré d'équivalence avec le Créateur, nous atteignons ce niveau, ce degré de ce que cela veut dire, ce qu'est être un donneur, l'adhésion complète. Partenaire, oui, équivalence, oui, d'écoute, oui, réception, oui, donner, oui. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Je ne sais pas. Mais tout est défini comme Gmar Tikkun, la fin de la correction. D'accord?
Non.
Bien. J'ai entendu aujourd'hui que tu as dit que le problème de la restriction, de la Tsimtsum, c'est le point d'équivalence de forme minimum avec le Créateur. Ibour, la conception, c'est le premier point d'adhésion avec le Créateur. En quoi? Lorsque je restreins simplement mon désir de recevoir, que je veux m'annuler envers le Créateur et en tout ce qui est au-dessus. C'est-à-dire que tous les désirs qui me sont donnés, si je les annule dans le groupe, complètement, alors je deviens dans le groupe comme une partie de cet embryon. Si on fait tout cela, alors nous, en tant que parsouf qui est en conception. Mais en fait, quelle est la force de motivation qui agit sur la personne pour faire un simsum, une restriction de groupe? Comment est-ce que je fais ça? afin d'atteindre le don au Créateur. Nous devons nous créer d'une telle façon que cela sera mon action dans le groupe. Je peux donner au Créateur directement, le ressentir directement, uniquement par ce récipient du groupe. Donc, nous parlons de l'intention à donner au Créateur. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de massach encore? Pourquoi est-ce que c'est uniquement Tzimtzum? Maintenant, j'ai l'intention de donner au Créateur, je fais un Tzimtzum. Par l'intention de donner au Créateur, pourquoi ce n'est pas considéré comme massach? Parce que je n'ai pas la force pour cela. Nous recevons tout graduellement également mon désir de recevoir est petit, que quand même je ne peux donner, je dois recevoir le désir de recevoir plus grand, plus cruel, et en l'inversant, je peux le tourner vers la catnoute. Comment, où est-ce que je vais grandir de 9 mois de grossesse? Le désir de recevoir est ajouté, révélé en moi, et il commence à se développer, pas uniquement en le restreignant. Lorsque je restreins, je le fais. Mais par cette restriction, c'est un point à chaque fois, chaque point de restriction devient le corps de l'embryon. D'où est-ce qu'on prend la force de faire cela? Où est-ce qu'on prend la force de faire la restriction? Évidemment, de la lumière. Qu'est-ce que tu veux dire de où? Dans l'homme, il n'y a rien. D'un côté, il reçoit le recevoir. Le désir de recevoir, c'est ce qu'on appelle la gauche. D'un autre côté, il reçoit la lumière. Et alors, il travaille avec la gauche et la droite et s'établit au milieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais de cela, il faut s'intégrer dans le groupe autant qu'on le peut. À toutes les conditions qu'on peut avancer, alors que si je suis pas dans un groupe maintenant, je peux pas m'intégrer dans le groupe. Donc je n'ai aucune façon d'avancer, tout mon avancement, le groupe c'est l'embryon. Tout mon avancement est par cela. On n'a nulle part où aller. Uniquement par le groupe vers le Créateur. Le groupe est ce même modèle dans lequel tu dois t'intégrer et prendre ta forme, et dans cette forme tu ressembles au Créateur. De l'amour de la créature à l'amour du Créateur, il n'y a rien d'autre qui t'aidera, il n'y a rien d'autre.
Oui,
je ne demande pas. Ça fait maintenant qu'on essaie d'arriver à ce que moi, en tous les cas, j'essaie de comment atteindre cette étape première restriction. On sait tout, on connaît toutes les règles, on connaît les articles du rabbin, on connaît la méthode, on sait que c'est vrai, mais cette étape n'arrive pas. Mais l'action ne prend pas place, ça ne fonctionne pas. Pose-toi la question à propos de la route. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est tout. Demande la route. J'ai rien d'autre à répondre.
שאלתי מה שדיברתי עם רבש כל זה אני מעביר לכם לא לא לא
חושב
לא מסתיר שום דבר
au rabash et je vous le fais passer, je ne garde rien. Mais je ne peux pas faire des actions plutôt que vous dans le groupe. Et sur la dizaine, tu sais de ces articles que rien n'arrivera. Pas uniquement les articles, tu peux lire tous les articles des étudiants du Baal Shem Tov. Ils ont mis en œuvre la méthode du Hari, ils l'ont pratiqué. Regarde ce qu'ils écrivent, tu comprends tout ce qu'ils écrivent. Prends tous les grands sages des Hassidut, vas-y, prends-les tous. Du Baal Shem Tov, et à partir de là, tu comprendras de quoi leur parle leur écriture. Du travail du Créateur, mort au Veshemesh, les racines du travail, Ramchal, disons, il n'était pas racine, mais il était avant cela. Tu verras. Il y a tellement de choses, on lit tellement de choses, de coques, etc. tous ces livres, la même chose est écrite en chacun, chacun dans son propre style, évidemment. Combien est-ce qu'il y en a eu? 20, 30, 28, je crois, dans le mouvement racidique.
Zéro.
Le Baal Shem Tov, 28. C'est tout. C'est ce qu'on avait. Je ne sais pas de quoi tu te plains.
Exactement,
lorsque tu dis je comprends, je sais, tu ne sais pas et tu ne comprends pas. Parce que toute ta compréhension n'est pas faite sur l'expérience. Ça ne vient pas de l'expérience, ça vient des livres. Des livres, ce n'est pas. C'est pas pris en compte, c'est rien. La sagesse, c'est une sagesse de vie, que je prends cela, je l'accepte de mon expérience, et que vraiment je m'annule dans le groupe, et je leur donne tout mon arvout, tout ce qui est demandé de ma part, c'est ce dont je me préoccupe. Et de là, je commence à apprendre. C'est comme cela que j'écris le livre de la Torah sur mon cœur, et pas de ce qui est écrit dans le livre. Mais
il ne s'agit pas de se plaindre,
mais ça parle de l'essai de sauter d'un degré maintenant dans le groupe, faire quelque chose de supplémentaire entre nous. Je ne te comprends pas, tu viens pas ici pour te calmer. Ça devient même plus difficile. Évidemment, il faut qu'on avance, mais l'avancement, on continue à rentrer constamment, buter dans cette route. C'est une condition pour recevoir la Torah. C'est-à-dire la lumière qui corrige. À partir du moment où on essaie d'être en arvout tous ensemble, et selon cela, la lumière qui corrige, agissons-nous. Et selon cela, nous devenons un récipient. Essayons de faire ces actions, mais il y a le ressenti d'un autre côté vraiment très fort que on est comme du brouillard lorsqu'on essaie de se rapprocher les uns des autres. Où est vraiment ce bouton? On peut presser tous dessus pour que on peut voir que tout ce qu'on essaie de faire, tout ça est brouillé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici tous ensemble au-delà? Mis à part la route et la prière est également inclue dans la route. La route est le soutien mutuel, que je fais tout pour la société, parce que de mon âme, c'est ça qui est nécessaire. Et c'est ça que je dois faire. Et je ne me prends pas en compte, parce que moi, je me ressens comme maintenant ne fait pas partie de la spiritualité, ne fait pas partie de l'âme. Je dois me déconnecter de moi-même et atteindre un état où je suis inclus en eux, et ensuite mon intégration en eux, cela est mon âme. Et alors j'ai besoin pour cela de faire des actions et prier. Et prier le Créateur. Et vous tous faites cela.
Je
ne pense pas que par cela chacun dépend des autres, mais que là, que moi, on fait tout ensemble. Qu'est-ce que je ferai avec les autres s'ils ne veulent pas? Il n'y a pas de problème. Il veut. T'es comme Rabbi aussi. Ok, continuons à avancer. Comment est-ce qu'on aide les amis qui constamment sont malades? Le groupe peut aider les amis qui doivent être également préoccupés pour cela. Il faut faire de la connexion, les renforcer. Évidemment. nous avons reçu un certain avancement dans le congrès et après cela, ça commence à tomber en morceaux. Et alors, on va rentrer dans des problèmes, maladies, on ne se sent pas bien. Ce type de réponse post-congrès. Et ça ne devrait pas être comme ça. Il devrait même aller à plus haut degré. C'est un signe que ce qui se passe avec nous après le congrès, c'est un signe que nous ne nous renforçons pas entre nous, mais nous devenons plus faibles. Et dans cette, plutôt que ce renforcement mutuel, et alors on peut faire ça 2-3 jours, il y avait un but mutuel avant le congrès. Après le congrès, tout le monde était ensemble d'une certaine façon, mutuellement. Mais après le congrès, c'est fini, il n'y a plus d'action mutuelle. Et qui nous oblige et nous ne continuons pas ces actions mutuelles mutuellement intérieurement pardon et que en âme cœur et âme je veux aider les autres et les autres veulent m'aider et qu'on devienne un seul récipient. Non, on n'a pas cela. C'est pourquoi nous sommes dans une descente, en faiblesse. C'est un problème. Malade. Nous perdons beaucoup en nous permettant de être comme. Être un peu lâche comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ok. Tess, peut-être?
Les chèmes chinois. Bon.
Pour changer.
Okay.